c'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint, Jean-François Cadet.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Et pour ce dernier Café Polar de l'année, vous avez invité une star du genre, Maxime Chatham.
Et oui, l'écrivain français traduit dans le monde entier et qui depuis bientôt 20 ans est devenu l'un des auteurs préférés du grand public et dont le nouveau roman nous fait découvrir un univers très particulier que vous allez peut-être reconnaître avec ça. Une idée, alors non. Un autre indice. Ouais.
Alors, sauf erreur de ma part, c'est l'ancien générique d'ouverture du journal de 20h de TF1.
Exactement, et précédemment, c'était celui de France 24. Ces génériques des grandes chaînes de télévision et des journaux de 20h, comme vous venez de le dire, ce rendez-vous incontournable, chaque soir pour des millions de personnes.
Oui, et c'est donc pour ça, j'imagine, que le roman s'intitule Prime Time. C'est évidemment le moment des plus fortes audiences en télé.
Exactement, et c'est pour cette raison, justement, qu'en direct, à 20h, surgit sur le plateau, on parle du roman évidemment, un homme masqué qui prend en otage le présentateur vedette ainsi que les techniciens sur place et qu'il menace de les tuer si l'antenne est coupée. C'est donc un démarrage sur les chapeaux de roue pour cette histoire qui va nous tenir en haleine pendant près de 500 pages et nous faire vivre minute après minute les coulisses de cet événement tragique dont sont témoins les téléspectateurs du monde entier. L'occasion pour l'auteur de questionner notre voyeurisme, notre addiction aux images tragiques et tout simplement notre relation au petit écran. Maxime Chatham.
C'est bien joli de tout le temps critiquer la télévision parce que c'est un peu beaucoup ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Énormément de « ah oui mais la télé, moi je regarde plus parce que si, parce que les programmes, parce que… » Mais il faut arrêter de se plaindre, il faut agir un peu. Je veux dire, la télévision, elle ne fait que proposer ce qu'on lui demande, rien de plus. À part les chaînes publiques, et en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc 90% des chaînes de télé sont privées, elles ne font que répondre à une demande. Elles sont là pour ça, hein. Elles sont pour gagner de l'argent, elles ne sont pas en train de se dire « tiens, j'ai fait un programme qui ne marche pas ». Non, elles vivent grâce à la pub me rapporte de l'argent parce qu'il y a du monde. Donc, qu'est-ce que les Français regardent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Tenir sa télécommande, décider de regarder ou au contraire de zapper d'une chaîne à une autre, c'est plébisciter un type de programme. Et il ne faut pas se planquer derrière le côté, c'est un peu toujours ce qu'on entend, oui, ok, bon, je regarde parfois tel programme, mais moi, non, enfin, c'est nul, mais moi, c'est pas pareil. Ah oui? Mais si tout le monde te dit la même chose, il faut assumer derrière que. Donc, moi, je suis le premier à toujours ronchonner en disant pourquoi on n'a pas plus de culture, une grande émission culturelle en début de soirée, en prime time. Il y en a très, 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 très peu sortis du service public, il n'y en a même pas d'ailleurs. Mais parce qu'en fait, quand vous les programmez, ça ne fait pas beaucoup de monde. Pas grand monde a envie de les regarder. Donc on n'est pas si nombreux que ça à demander. Donc vivre en démocratie, c'est aussi ça, c'est accepter le plébiscite de la consommation des uns et des autres. Donc avoir une télécommande dans les mains et choisir de zapper ou de rester devant un programme, c'est un acte militant, c'est un acte politique, il faut arrêter de se cacher.
Alors, qui dit prise d'otage en direct dit forcément intervention de la police. Est-ce que les forces de l'ordre font partie des personnages du roman de Maxime Chatham, Catherine?
Des personnages principaux même, puisqu'en effet, au regard de la gravité de la situation, c'est le GIGN, soit le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, qui est envoyé sur place pour essayer de négocier avec le terroriste. Et comme Maxime Chatham est un auteur qui aime beaucoup se documenter, il a rencontré des membres de cette élite. Il a même fait une expérience très particulière avec le GIGN, à savoir un exercice à balles réelles. Souvenir.
Un jour, j'étais au GIGN et à force de dire à quel point j'étais très admiratif de leurs compétences et de leur excellence, ils m'ont dit « mais écoute, puisque tu dis ça, va falloir nous prouver que tu as vraiment confiance en nous ». Et ils ont ouvert la porte du pas de tir et ils m'ont montré une chaise à 50 mètres. Il y avait 5 tireurs au sol, dans le noir, et ils m'ont dit « bah voilà, il y a une chaise, il y a des ballons autour de la tête, tu t'assois et si tu as confiance en nous, on fait un tir simultané. Tu n'entendras qu'une seule détonation ». Mais les 5 projectiles seront tirés en même temps, les ballons vont tous s'exploser, c'est balles réelles. Hein. Et est-ce que tu as envie d'essayer? Et je peux vous dire, quand vous le vivez, c'est assez impressionnant. Quand vous entendez le coordinateur de tir qui, dans le noir, il y a juste sa voix, vous l'entendez dire « à mon décompte, prêt », et là vous entendez un prêt, deux prêts, trois prêts. Et vous savez qu'à 5 prêts, il va y avoir un décompte et qu'après ça tire à balles réelles sur vous. Hein. Et d'un coup, j'ai entendu 5 prêts, j'ai entendu 3, 2, 1, et un seul tir. Et là, j'ai regardé, j'ai entendu une voix qui disait « C'est bon, tu peux te lever, Maxime. » Je me dis bah, « C'est bon, j'ai mal nulle part, je suis vivant. Bon, bah super, bravo les gars !» Et ma femme m'en a beaucoup voulu le soir même.
Clairement, chapeau à Maxime Chattam. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire comme lui. On peut dire en tout cas, Catherine, que c'est un auteur qui s'investit dans ses romans au sens vraiment propre du terme. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il s'engageait aussi sur un sujet d'actualité brûlante.
Oui, dans le récit, on va se rendre compte qu'un des personnages a commis et commet toujours d'ailleurs des agressions sexuelles sur ses collègues femmes. Des actes qui longtemps ont été tus dans la chaîne par honte des victimes, par peur de représailles professionnelles, mais qui ici, grâce au mouvement MeToo qui a libéré la parole se font entendre. Et donc le roman raconte non seulement une crise à gérer, mais une deuxième via une jeune journaliste. En tout cas, pour Maxime Chattam, c'est un sujet sur lequel on ne peut plus fermer les yeux.
La société était incapable de faire face à une déviance qui s'est généralisée. Il a fallu une explosion dramatique. Mais heureusement qu'elle est intervenue. C'est-à-dire que la société est un petit peu meilleure aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu MeToo, parce que beaucoup de personnes et d'entités, beaucoup d'entreprises, beaucoup de politiques ont pris en compte ces souffrances-là, ces comportements-là, et se sont dit, mais en fait, on ne peut plus tolérer. Ce qui autrefois était, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le roman, le côté « Ah, mais machin, oui, bon, on sait, il est un peu excessif, il va un peu trop loin, mais il est comme ça, quoi, c'est machin, quoi. » Ben non, en fait, non. Mais on a évolué, alors... C'était une autre époque, c'était un autre temps, les choses se sont faites, on ne peut pas revenir en arrière. Bien sûr, on aurait aimé empêcher beaucoup de choses de se produire. Et là, c'est arrivé. Maintenant, une fois qu'on le sait, une fois qu'on l'a dit, il est impensable de mettre un mouchoir, de se dire « bon, bah, ok, on a condamné trois personnes ». Non, la société se doit d'avancer, d'évoluer. Ce qui est aujourd'hui MeToo est en réalité les prémices d'une construction nouvelle dans l'état d'esprit, dans les mœurs, dans la façon de parler, ne serait-ce qu'à ses enfants. C'est important, moi j'ai des jeunes enfants, dont un garçon, mais une fille aussi. C'est important de leur expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible dans une société, et comment on doit se comporter. Et aussi, au-delà de ça, alors le respect bien sûr de l'autre et le consentement, tout ça c'est une évidence, il faut le dire. Et maintenant, je pense que ça fait partie du système d'éducation global, j'espère que ça va se généraliser. Mais au-delà de ça, ça amène aussi à s'interpeller beaucoup sur, notamment je pense pour les hommes, et pour avoir un petit mec à la maison, il a 9 ans, c'est encore un peu compliqué et c'est tôt pour lui, mais c'est un vrai sujet quand il va être adolescent, j'espère pouvoir, enfin je veux d'ailleurs avoir des vraies conversations avec lui, sur comment se conduit un homme, et c'est ces questions-là que j'espère pouvoir aborder avec mon fils notamment.
Prime Time, un roman très contemporain avec une narration tout en tension, un tempo très rythmé, on s'ennuie pas une seconde visiblement, et en plus le dénouement est particulièrement inattendu, m'avez-vous dit Catherine ?
Oui, j'avoue que la révélation de l'identité de la personne qui dans les coulisses manipule tout le monde m'a laissé sans voix.
Spoilez pas parce que j'ai l'intention de lire.
Justement, je ne vous dis rien, mais je ne m'attendais pas du tout à ce rebondissement. Alors, est-ce qu'il est arrivé au fur et à mesure de l'écriture ou est-ce que tout ça était prémédité depuis le début, Maxime Chattam ?
Ah oui, bien sûr. Ouais, surtout dans un thriller comme ça, où c'est la révélation finale. Il peut y avoir des romans policiers dans lesquels on arrive à créer un vrai suspense, une vraie tension et une révélation finale qui ne repose pas sur qui est le grand méchant de l'histoire, c'est possible. Ça m'est arrivé, mais dans ce roman-là, ça reposait notamment sur ça. Pas que, mais en partie. Donc là, j'avais besoin de le savoir dès le début pour pouvoir poser tout doucement des éléments qui construisaient lentement le récit vers cette fin. Pour pas que la fin se fasse un peu « Oh, j'ai sorti la carte de ma manche, personne ne l'a vu venir », mais parce qu'en fait, il n'y avait aucun moyen de le deviner. Au contraire, le livre, si vous le relisez, vous vous rendrez compte qu'en réalité, il y a des moments dans le roman où il y a des réactions de certains personnages où, quand on le sait, on peut se dire « Ah, mais en fait, il y avait une double lecture. » Mais l'évident, j'ai pris la lecture la plus évidente, mais j'aurais pu aussi le prendre dans l'autre sens. Et ça marche vachement bien, parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le livre se construit de cette manière-là, pour moi, en amont. C'est-à-dire, je dois distiller petit à petit les informations, tout en les maquillant suffisamment pour que ce ne soit pas des évidences.
C'est vraiment le monde de l'illusion, en effet. Hein.
C'est un tour de magie. Un bon thriller, c'est un tour de magie. Hein. Vous agitez une main, vous montrez quelque chose, et en réalité, de l'autre, vous êtes en train de placer tout doucement vos cartes sur la table pour surprendre à la fin.
Bon, alors, Alors visiblement, Prime Time s'annonce déjà comme un best-seller en librairie, mais à peine est-il sorti que l'auteur semble être déjà sur de nouveaux projets, là, je vous dis.
Il n'arrête pas. D'ailleurs, il suffit de regarder sa bibliographie. 31 titres en à peine 20 ans. Donc, c'est plus d'un livre par an, parce qu'il écrit aussi pour la jeunesse. Et puis, il alterne des cycles romanesques avec des unitaires. Bref, Maxime Chattam a une imagination débordante qui n'a pas l'air de s'éteindre.
Si demain, je n'ai pas une seule idée neuve, je peux encore écrire au moins entre, je pense, entre 10 et 20 bouquins facile, ouais, facile.
Mais comment vous expliquez ça ?
Bah parce que c'est ma vie, c'est ce que je suis, c'est peut-être aussi pour ça que j'écris, c'est des idées. Mon cerveau s'est construit comme ça dès mon adolescence, d'observer autour de moi et d'être une forme d'éponge aux émotions, mais également à ce que je perçois, consciemment et inconscient. Et c'est assez paradoxal, je ne me souviens jamais d'aucun rêve quand je me lève le matin. En revanche, toute la journée, je rêve éveillé à ce que j'aurais envie d'écrire, ce que je pourrais écrire. Et je construis des histoires comme ça dans ma tête. Je prends en note régulièrement. Et je sais déjà, j'ai commencé maintenant que j'arrive à proche tout doucement de la cinquantaine, à faire le deuil de quelque chose que je n'avais pas réalisé jusqu'à présent, que je ne pourrais pas écrire tous les livres que j'aurais envie d'écrire. Et tout ce qui est dans ma tête, c'est impensable. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'idées, tellement d'envies, que la vie ne sera pas assez longue pour ça. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire les meilleurs, déjà, en tout cas ceux qui m'amuseront le plus.
Voilà, Prime Time de Maxime Chattam est publié aux éditions Albin Michel. Et si vous voulez en apprendre encore plus sur les coulisses du livre, l'intégralité de mon entretien avec l'auteur est à retrouver sur le podcast. Et j'en profite, Jean-François, pour vous remercier de m'avoir accueilli depuis plus d'un an.
Mais
dans votre émission.
Plaisir.
Vous m'en direz des nouvelles pour ce Café Polar que vous avez toujours écouté avec attention, curiosité, gourmandise. C'était donc un vrai plaisir d'être avec vous et ce Café Polar.
Merci beaucoup, Catherine.